Chapitre 43. On était au samedi, c'est-à-dire au jour de départ du Canada pour New York, qui devait avoir lieu à la pleine mer du matin. Arrivé la veille avec les bagages et aussi avec l'argent qui lui avait été remis par Harley, Bernard avait tout préparé. Roger n'avait plus qu'à s'embarquer. Dans quelques heures, il aurait quitté la France. La chambre qu'il occupait à Frascati avait deux fenêtres, l'une sur la pleine mer, l'autre sur l'entrée du port et les deux jetées. Assis devant la fenêtre ouverte sur la mer, il songeait au départ, et ce n'était pas sans tristesse que, dans cette chambre vide où il avait vécu depuis 5 jours, où il avait remonté le cours de sa vie et de ses amours en écrivant à sa maîtresse sa lettre d'adieu, il plongeait ses yeux dans les profondeurs sans bornes où bientôt il allait s'enfoncer et disparaître. Et malgré lui, détournant ses yeux de l'horizon vaporeux dans lequel il se perdait, au milieu de la confusion des flots et des nuages, il laissait son esprit retourner en arrière. L'heure était mélancolique, d'autant plus triste qu'il ne trouvait en lui aucun ressort, rien sur qui s'appuyer, rien qui le satisfît ou qui l'encourageât. Comme il songeait ainsi, regardant sans le voir le mouvement des navires qui s'opéraient devant lui, à ses pieds, les uns entrant dans les jetées, les autres gagnant la haute mer, il crut entendre un bruit de pas à sa porte. Bernard, sans doute. Nonchalamment, il se retourna, car l'heure du départ n'était pas encore sonnée. La porte s'ouvrit, vivement poussée. C'était Madame d'Arverne. Instantanément, Roger fut debout. Pendant ce temps, Madame d'Arverne fermait la porte et s'adossait contre. Durant quelques instants, ils se regardèrent, lui immobile devant sa fenêtre à laquelle il tournait le dos, elle devant la porte, de sorte qu'ils étaient séparés par toute la largeur de la chambre qui était assez vaste. Madame d'Arverne était en costume de voyage, coiffée d'une toque avec un voile qui lui cachait le haut du visage, enveloppée d'un manteau chaud, en tout la toilette d'une femme qui avait passé la nuit en chemin de fer. Lentement, elle dénoua son voile et défit son manteau qu'elle jeta sur une chaise qui se trouvait à la portée de sa main et, sans faire un pas en avant, comme si elle tenait à garder sa porte et à la défendre. Roger remarqua alors qu'elle était pâlie et que ses yeux sombres avaient un éclat fiévreux. Son visage portait les marques de la fatigue. À la regarder ainsi, un frisson courut dans ses veines et une bouffée de chaleur lui monta au visage. Pour elle, toujours immobile, elle le regardait aussi. Mais, loin de fermer les yeux, elle les ouvrait tout grands, elle les dardait sur lui, l'enveloppant de la tête aux pieds, suivant jusqu'au plus profond de son être le trouble qu'elle produisait. Elle ferma à demi les paupières et, les yeux noyés, alanguis, les lèvres entr'ouvertes, les narines frémissantes, la poitrine haletante, elle attendit. Comme il ne bougeait point, elle se décida à parler et, sur ses lèvres, comme dans ses yeux, courut un sourire moqueur.
« Ainsi, dit-elle, c'est bien vrai? Vous partez? »
« Dans une heure, je serai en mer. » Cela fut dit avec tristesse, mais aussi avec résolution. La voix était émue, mais ferme cependant.
« Et c'est sans regret ? » demanda-t-elle.
« Non sans regret, avec chagrin au contraire, avec une vive et profonde douleur. »«
Alors, pourquoi partir ?»«
Parce qu'il le faut. » Elle laissa échapper un mouvement d'impatience, mais aussitôt elle se contint et le sourire moqueur qui avait paru sur ses lèvres s'accentua en prenant un caractère de raillerie voulue.
« Ainsi, c'est un engagement que vous avez pris envers vous et envers un autre. » Un engagement qu'on a sollicité, imploré, qu'on vous a arraché. On vous a dit que c'était le devoir d'un galant homme de rendre une femme à son mari, une mère à ses enfants. On vous a fait voir qu'en décidant cette rupture qui vous était cruelle, vous étiez héroïque, chevaleresque.
Elle accentua encore la raillerie de son sourire et l'ironie de son intonation.
Chevaleresque, c'est tout dire quand on parle à un Naurouze.
Fit-elle en continuant.
Pour être chevaleresque, le duc de Naurouze sacrifierait sa vie avec bonheur. Et puis, chevaleresque envers un mari, ça c'est original, ce n'est pas du premier venu. On s'emballe là-dessus et l'on se sauve plus vite, chevaleresquement. » Elle se mit à rire d'un mauvais rire dédaigneux. Puis, brusquement, le sourire qui était sur ses lèvres s'effaça. Ses sourcils qui étaient abaissés se relevèrent. Deux profonds sillons se creusèrent dans ses joues, des rides coupèrent son front, et ce fut l'expression de la douleur que trahit son visage. « Et envers la femme » s'écria-t-elle. « Est-ce se montrer chevaleresque que de l'abandonner ? Que t'ai-je fait pour mériter cet abandon ?» Ce fut avec un élan passionné qu'elle employa le tutoiement. « Dis, que t'ai-je fait, Roger ? De quoi te plains-tu ? Quels griefs as-tu contre moi ? Dis-les, ces griefs ! Montre-les s'ils existent, je te répondrai. Un seul existe, un seul est réel. Je t'ai trop aimé, je t'aime trop. Mais l'invoqueras-tu ? Parle !» Ils étaient toujours en face l'un de l'autre. Elle, adossée contre la porte, lui, devant la fenêtre, sans qu'ils eussent fait, ni elle ni lui, un pas pour se rapprocher. « Tu ne dis rien ? » s'écria-t-elle après un moment d'attente. S'il ne disait rien, c'est qu'il sentait bien qu'une discussion ne pouvait que le perdre. Il était trop profondément remué, trop troublé, trop ému pour discuter. Est-ce qu'il était en état de réunir des arguments, de plaider ? Était-il même en état de garder son sang-froid, sa raison ? Ce n'était pas une femme indifférente à son cœur qu'il avait devant lui. C'était une femme qu'il avait aimée, qu'il aimait encore. Sous ses regards, il frémissait, et lorsqu'elle avait défait son manteau, il s'était dégagé d'elle un parfum, ce parfum qu'il avait si souvent respiré, qui avait fait bondir son cœur et tendu ses nerfs. « Je n'ai qu'une chose à dire, j'ai pris un engagement, et mon honneur m'oblige à le tenir, quoi qu'il m'en coûte. »«
Quoi qu'il m'en coûte ! »
Vous voyez bien qu'il m'en coûte beaucoup. De même que vous comprenez bien, vous sentez bien aussi que ce n'est point par sécheresse de cœur, par indifférence, par dureté, que j'ai voulu vous éviter des explications, des adieux qui ne pouvaient que nous rendre malheureux, horriblement malheureux l'un et l'autre. De nouveau, il fit deux pas en avant. Puisque la fatalité nous sépare, ne faisons rien, ni vous ni moi, pour aggraver les difficultés, les douleurs de cette situation. L'heure du départ a sonné. Il s'était avancé vers la porte, c'est-à-dire vers elle, mais elle n'avait pas quitté sa position.
« Tu ne partiras pas !» dit-elle.
« L'heure presse !»«
Tu ne partiras pas !»
Et résolument, elle s'appuya contre la porte en étendant ses deux bras en croix.
« Tu penses bien, s'écria-t-elle, que je ne t'ai pas rejoint ici pour te laisser partir ? Et pourquoi partirais-tu quand nous pouvons être heureux, quand je t'aime, car malgré tout, je t'aime encore ? Je t'aime, tu entends mon Roger, je t'adore, et quand tu m'aimes aussi, car tu as beau détourner les yeux, tu as beau voiler ta voix, rendre tes paroles brèves et sèches, tu m'aimes comme tu m'aimais il y a aujourd'hui 8 jours. Dans ta chambre à Fontainebleau, où nous avons été si heureux. Te souviens-tu ? Tu vois bien que tu te souviens, puisque tu frissonnes comme je frissonne moi-même à l'évocation de ces souvenirs. Comme tu m'aimais il y a 1 mois, il y a 6 mois, comme depuis que nous nous connaissons. Oh, le pauvre fou qui aime, qui est aimé et qui veut partir.
J'ai donné ma parole.
Eh bien, tu manqueras à ta parole.
Jamais.
Alors, tu emploieras la force pour m'arracher de cette porte que je défends, car je ne te laisserai pas partir. Allons, Roger adoré, mon bien-aimé, mon amant, mon Dieu, ma vie, toi que je vénère, que je respecte, qui est tout pour moi, le passé, le présent, l'avenir. Mon espérance en ce monde et dans l'autre. Allons, étends sur moi cette main que j'ai si souvent caressée et baisée avec ivresse. Repousse-moi, arrache-moi d'ici, car je ne te livrerai point passage.
Parlant ainsi, elle l'enveloppait, elle l'entourait, elle le brûlait de ses regards passionnés. Adossée contre la porte, la poitrine en avant, la tête haute, elle attendait, bien certaine que si cette main hésitante s'étendait vers elle et la touchait, ne fût-ce que du bout du doigt, ce ne serait pas pour l'arracher de cette porte. Au dehors, par la fenêtre ouverte, on entendait le bruit de plus en plus fort de la mer qui frappait les galets, et bientôt, sans doute, allait battre son plein. « Allons !» murmura-t-elle, d'une voix dans laquelle il y avait plus de caresses que de défis. « Viens, Roger, viens me repousser, me faire violence, que je sache enfin comment tu m'aimais !» Il était à deux pas d'elle, sous son regard, et, en même temps que cette voix le bouleversait, chaque vague qui déferlait sur le rivage lui retentissait dans la poitrine, lui rappelant qu'à la marée pleine, le vapeur quitterait le quai. Il fit un pas de plus en avant et il étendit la main pour l'écarter. Mais de ses deux mains, elle saisit la sienne et, d'un bond, elle fut sur lui, l'enlaçant de la tête aux pieds, le serrant, lui fermant la bouche avec un baiser. Et ce ne fut pas elle qui recula, ce fut lui, la portant suspendue à ses lèvres.